Vous écoutez IDFM. Il est 14h.
Audrey Lamoli et je suis ravie de vous retrouver sur IDFM Radio Anguin dans l'émission La Parole aux Associations, une émission dédiée aux associations du Val d'Oise et à ceux qui les font vivre. Cette semaine, je reçois une partie de l'équipe d'Alternative Network, association sergissoise créée très récemment mais qui en a déjà sous le pied. Tout a commencé en novembre 2018 sur le parvis de la préfecture de Cergy, lorsque le collectif Ma Planète réussit l'exploit de rassembler un très grand nombre d'habitants pour une collecte géante de déchets et montrer ainsi l'engagement de chacun en faveur du climat. S'ensuit le rendez-vous des initiatives responsables au Fab Lab La Boîte, toujours à Cergy. Tiffaine rencontre Hugo, ils parlent de créer une entreprise. Finalement, ils vont monter un festival et une association. À l'heure où les produits bio sont de plus en plus réclamés et attendus par les consommateurs, que les étiquettes des produits sont scrutées à la loupe, que consommer responsable devient une urgence pour soi, mais aussi pour la planète, Alternative s'inquiète, s'indigne, se mobilise et surtout agit. Pour nous parler de cette association, j'accueille cet après-midi Tiffaine Couder, cofondatrice et présidente d'Alternative, et Benoît Letellier, récupérateur hors pair et membre de l'association. Bienvenue à tous les deux dans l'émission.
Bienvenue.
Oui. Bonjour. Au sommaire de cette émission, je vous propose d'abord d'en savoir un peu plus sur nos invités dans la rubrique Portrait d'engagé, puis Tiffaine et Benoît nous présenteront concrètement ce que fait l'association. Et en dernière partie d'émission, nous parlerons des ressourceries partenaires d'Alternative pour mieux comprendre leur fonctionnement et leur action sur les territoires. Alors tout d'abord, Tiffaine, Benoît, je vous propose de faire votre portrait d'engagé pour mieux faire votre connaissance. Si vous êtes d'accord,
mmh,
on
oui,
commence.
Tout à fait. Ça marche.
Alors, d'abord, est-ce que vous pourriez, pour commencer, nous présenter un petit peu votre parcours? Qui êtes-vous?
Alors, si je commence, voilà, donc Tiffaine. Alors, moi, en fin de compte, j'ai travaillé plusieurs années dans le marketing. Et donc, justement, j'ai eu une question véritablement de quête de sens professionnel. Et donc, j'ai entamé une reconversion professionnelle depuis maintenant un an. Et donc, c'est vrai que ça a pris forme, en fait, avec l'association, puisque c'est vraiment voilà, la recherche d'engagement et surtout aussi de faire vivre les dynamiques, en fait, existantes aujourd'hui sur les territoires qu'on voit, en fin de compte, de plus en plus présentes. Voilà, être un acteur, en fin de compte, qui finalement fait du marketing, donne de la visibilité à toute cette économie-là qui mérite de gagner en visibilité.
Donc Tiffaine, vous venez donc du marketing, du secteur privé en entreprise. Benoît?
Et moi, Benoît, en fait, j'accompagne Tiffaine dans son projet écologique puisque je pense qu'on est un tournant où, même si c'est même trop tard, chacun doit avoir une implication locale sur son comportement. À la base, moi, je viens du milieu industriel, je suis ingénieur dans l'industrie. Donc justement, formaté à l'école où on doit produire mieux, produire plus sur des chaînes qui polluent et qui consomment de l'énergie. Et je vais complètement controverser tout ça maintenant en étant dans un système de récupération où j'essaye de vivre uniquement avec ce que les gens jettent, ne plus consommer. Voilà, je suis un vrai décroissant en fait.
Alors justement, quel a été votre facteur déclencheur de votre prise de conscience? Est-ce que c'est lié à votre éducation? Est-ce qu'il y a eu un événement? Quand vous avez pris et comment vous avez pris conscience qu'il fallait agir?
Non, moi, c'est vraiment au moment, en fin de compte, au moment où j'ai vu le film Trash. C'est un film voilà, qui explique en fin de compte l'importance en fin de compte des déchets aujourd'hui sur la planète, en fin de compte, et l'importance que, enfin, les problèmes que ça pose. Et véritablement, moi, je sais que ça a été une vraie prise de conscience pour moi en fait de ce problème-là, et donc il fallait agir aujourd'hui et donc d'y donner du temps.
Vous, c'est pas particulièrement vos parents ou votre cercle familial qui vous a appris très tôt à trier les déchets, par exemple, non?
Non, pas du tout. Je dirais que là, oui, sur le bassin familial, je suis plutôt dans une famille très consommatrice, voire surconsommatrice, donc vraiment produit 30 glorieuses comme on peut en voir beaucoup aujourd'hui. Et voilà, moi, c'est vraiment au fur et à mesure du temps où j'avais de plus en plus de mal à voir un peu la dynamique de vendre plus, toujours plus, etc. Enfin, à un moment donné où on va, en fin de compte, surtout quand on commence à s'apercevoir que finalement, non, c'est sans doute pas la meilleure façon de faire les choses.
Et vous, Benoît ?
Et moi, je ne sais pas pourquoi je suis comme ça, mais même tout petit, à 6 ans, je ne voulais pas que mes parents m'achètent des habits tout neufs, je ne voulais pas qu'ils m'achètent des cartables, je réparais tout déjà tout petit. Et en fait, je me suis habitué à vivre comme ça, c'est-à-dire faire durer un maximum les choses et ne pas acheter du neuf, en fait.
Et du coup, vous avez peut-être emmené votre cercle familial aussi à...
Voilà,
l'obligeant à ne pas acheter.
J'ai converti tout le monde au tri sélectif, partout où je passe, j'essaye de parler du tri et d'essayer de choper de l'occasion plutôt que du neuf. Quoi.
Et alors, qu'est-ce qui vous indigne le plus en ce moment ? Une chose qui... Ça peut être très concret ou plus global ?
Bah, je dirais oui, c'est le fait qu'il y ait encore un manque d'engagement quelque part encore sur ces thématiques-là, puisqu'on sent que voilà, il y a une vraie tendance à ce que ça se développe, mais il faut davantage d'engagement, en fin de compte, sur les territoires pour que... ça puisse, je dirais, se développer, puisqu'on a des beaux exemples, en fait, où il y a des territoires, quand il y a associations, je dirais, collectivités et citoyens alignés sur ces thématiques-là, logiquement, voilà, ils peuvent aller très, très loin. Et je trouve que, voilà, aujourd'hui, on ne va pas suffisamment loin face à l'urgence qui est, voilà, assez importante.
Très pratico-pratique, quoi, très concrète. C'est-à-dire qu'il y a une prise de conscience. Aujourd'hui, on en parle quand même beaucoup. Il y a beaucoup d'émissions aussi qui démocratisent cette urgence-là, mais vous, ce qui vous indigne le plus, c'est le fait qu'on passe encore pas suffisamment à l'acte, nous, individuellement ou collectivement.
Oui, voilà, il y a une tendance, mais cette tendance-là, il faut vraiment l'accompagner, la soutenir, la développer, et à tous les échelons, je dirais, qu'elle soit justement locale ou même nationale, mais je pense qu'au niveau local, il y a vraiment quelque chose à jouer, d'où voilà, la présence de plus en plus d'acteurs, même locaux, qui justement essayent de favoriser tout ça, comme le collectif Ma Planète, qui justement a réorganisé sur l'agglomération notamment, mais comme ailleurs en France, le World Cleanup Day, qui voilà, clairement, d'année en année, on voit qu'il y a de plus en plus de gens qui participent. Ils ont même vu un peu aussi, voilà, un peu moins de déchets. Alors maintenant, voilà, est-ce qu'on peut vraiment arriver à tirer une conclusion en disant, ça y est, ça commence aussi à rentrer dans l'esprit des gens. Ça dépend, voilà, je pense aussi des territoires et des populations.
Et mon autre question avec l'indignation, c'est ce qui vous donne espoir, ce qui vous motive le plus ? Est-ce que c'est justement de voir qu'il y a des choses qui se font quand même déjà en place ?
Non, il y a beaucoup d'alternatives. Et justement, c'était aussi un peu quand on s'est rencontré avec Hugo au début, on s'est rencontré au rendez-vous des initiatives responsables. Et c'est vrai que c'est une rencontre où justement plusieurs alternatives viennent se présenter, quel que soit en fin de compte un peu leur étape de développement. En fait, ça peut être simplement au niveau de l'idée. Et donc, en fait, c'est là où on s'est rendu compte qu'il y avait vraiment énormément de choses. Maintenant, il y en avait tellement qu'on finissait un peu par s'y perdre. Et c'était l'idée, en fin de compte, de voilà, pouvoir noter toutes ces alternatives finalement sur une cartographie qui permettait en fait, voilà, de...
On va en reparler de cette cartographie. Benoît, votre plus grande indignation ?
Moi, ce qui m'indigne, oui, c'est qu'on continue à détruire des objets bons qu'on coûtait en énergie, en temps, puisqu'il a fallu que l'humain travaille pour construire tous ces objets. Et au final, c'est de l'objet poubelle, quoi. Donc, à quoi ça sert de vivre, d'aller travailler dans une industrie pour que, à la fin, ce qu'on a produit, on reconsomme de l'énergie pour le détruire.
C'est de la perte de sens aussi, au final.
On se dit à quoi on sert sur Terre, quoi.
Et vous avez de l'espoir. Qu'est-ce qui vous donne de l'espoir, de la motivation ?
Que je réussirai à recycler tous ces objets qui sont construits pour rien, je pense.
Alors, Tiffaine, vous avez évoqué le fait que vous avez quitté votre travail dans le marketing. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, on ait envie de se reconvertir professionnellement ?
Après, je pense qu'aujourd'hui, il y a déjà une mouvance aussi, il y a de plus en plus de gens qui se reconvertissent. Enfin, se reconvertir il y a 10 ans, c'était vraiment le parcours du combattant, parce qu'on était les personnes qui l'ont fait étaient vraiment les leaders de ça. Et aujourd'hui, il y a énormément de structures qui viennent aider, des structures qui viennent aussi questionner et puis faciliter le passage à l'acte, puisque pour certains, le passage à l'acte, il n'est pas évident. Parce que oui, d'un point de vue aussi économique, il y a aussi une décision, en tout cas moi, que j'ai prise en me disant, économiquement, je vivais effectivement sur un certain train de vie, de un rythme de vie. Et là, je décide en fin de compte de me dire, ben non, finalement, j'ai pas besoin de tout ça. J'ai besoin de moi. Qu'est-ce que vraiment j'ai besoin? Et finalement, voilà, quels sont, enfin, donc de finalement de plus réfléchir au sens que je mets en fait au temps, enfin, que j'apporte à telle activité, en fonction effectivement après voilà d'un besoin économique aussi un peu revisité.
Alors on l'a évoqué un petit peu, peut-être y revenir. Comment est créée Alternative? Parce que elle a été créée il y a pas très longtemps. Alors, j'ai évoqué avec vous la rencontre avec Hugo au Fab Lab. Est-ce qu'on peut Vous pouvez nous raconter un petit peu concrètement comment ça a pris forme? Parce qu'au départ, je crois que vous n'étiez pas parti sur le modèle associatif.
Oui, tout à fait. Non, au début, l'idée, vraiment, c'était de construire plutôt une entreprise avec justement l'idée d'une carte, mais aussi d'un guide, en fin de compte, en ligne, sous forme d'application, qui permettait véritablement, en fin de compte, de essayer de stimuler, en fait, finalement, les actions à ce niveau-là sur un territoire donné, avec l'idée de pouvoir voilà, compter ses points. Et puis, plus on avait de points, plus on aurait éventuellement, en fin de compte, une contrepartie. Et l'idée ici, c'était de s'associer avec des partenaires pour cette partie. Et de fil en aiguille, on s'est dit voilà, qu'on pouvait éventuellement construire un business model de ce projet-là, mais c'était quelque chose d'assez long à mettre en place, c'est-à-dire environ 3 à 5 ans. Et c'est pour ça que finalement, on a pensé voilà, que l'associatif était aussi plus intéressant pour notamment construire déjà les éléments, se faire connaître. Et on a rencontré notamment Julien Vidal, donc, qui a écrit le livre « Ça commence par moi ». Donc vraiment, voilà, au niveau individuel, de se rendre compte qu'on peut déjà nous agir en fin de compte. Donc c'était ce qui présentait. Et en le rencontrant à la boîte lors du rendez-vous des initiatives responsables, on lui a parlé de ce projet justement de business qu'on voulait monter. Et lui nous a évoqué, le digital c'est très bien, il faut effectivement pouvoir l'utiliser et d'avoir un outil comme ça, c'est intéressant. Maintenant, c'est pas suffisant, il faut aussi pouvoir entre guillemets échanger avec tous les acteurs. Et d'où en fin de compte l'idée en fait de créer le festival qui a été en fin de compte un peu la suite de nos aventures.
C'est la première fois que vous créez une association?
Tout à fait.
Oui. Oui. Ça s'est bien passé?
Oui, très bien.
Et alors, pourquoi vous avez choisi ce nom? Enfin, pourquoi il est assez... Donc, Alternative Network, ce qui veut dire...
Oui, le réseau des alternatives. L'objectif de l'association, c'est vraiment de promouvoir, en fin de compte, les alternatives de territoire et leur donner une visibilité. Donc, par multiples formats, que ça soit effectivement via la carte, mais via aussi des animations, des événements qu'on peut faire.
La notion de réseau est importante,
oui, voilà, d'où
de collectif.
Tout à fait.
Pour avoir un impact plus fort.
Oui, et puis le fait de se faire rencontrer les alternatives qui ne se connaissaient pas forcément. Par exemple, voilà, trois associations qui travaillent dans la permaculture étaient toutes les trois, en fait, en train d'agir sur le territoire, mais pour certaines ne se connaissaient pas. Et là, ça a été l'occasion, en fin de compte, qu'elles se rencontrent, donc d'imaginer aussi des projets demain.
Et alors Benoît, vous, comment vous avez rejoint Alternative? Comment vous avez rencontré Tiffaine et surtout pourquoi?
Ouais, je connais Tiffaine depuis 2 ans et puis on a partagé son projet. À la base, c'est elle qui est initiative de la création du festival. Et puis moi, j'avais déjà été plusieurs fois bénévole dans le milieu festif et je me suis dit je vais me lancer là-dedans parce que ça me bottait bien de faire un festival écologique sur le territoire de Cergy-Pontoise.
Il y en avait pas avant de festival écolo?
Il y avait quelques fêtes, en fin de compte, faites dans certaines communes qui, effectivement, mettaient en évidence ce qui pouvait se faire autour, soit sur la commune, soit sur le territoire. Mais là, l'ambition vraiment du festival, ça a été de se dire, on couvre un territoire plus large. Et je dirais, petit à petit, faire en sorte que ça puisse être... Oui, parce qu'il n'y a pas vraiment de festival, il y avait des fêtes, par exemple, qui pouvaient avoir, par exemple, ou des rencontres sur des thèmes particuliers comme la biodiversité, où il y avait aussi un festival, le Nomad Festival, qui est sur les voyages responsables. Donc là, c'est encore des thématiques qui sont proches de nous, mais sur un thème très précis. Lorsque l'EcoFest, en fait, on a vraiment voulu un festival multi-thème pour vraiment rassembler les différents acteurs.
Vous allez nous expliquer concrètement comment s'est déroulé l'EcoFest. Et Benoît, du coup, dans l'association, vous occupez quel rôle? J'imagine qu'il est polyvalent.
Oui, moi je suis un peu homme à tout faire, même dans la vie générale. Oui, sur le festival, j'avais une expérience sur la gestion des toilettes sèches, le montage, le démontage, tout ce qui était le côté technique.
Merci beaucoup à tous les deux d'avoir bien voulu nous en dire un peu plus sur vous. Je vous propose de poursuivre cette conversation et de découvrir plus concrètement ce que fait Alternative juste après avoir écouté Alain Souchon avec Presque.
À Lille, sur la Grand Place, par un jeu subtil de glace, j'avais son profil de face. Elle a glissé l'argent sous la tasse. S'est levée, je l'ai perdue. J'aurais dû. C'est presque toi, presque moi, ces amoureux dans la cour. C'est presque nous, presque vous, c'est presque l'amour. C'est presque toi, presque moi. On a presque poussé la porte, presque passé sous le porche. Et puis dans la cour fleurit le mot qu'elle a dit. Sur sa joue j'ai posé mon index. Elle a glissé sa main sous ma veste. Un peu plus et là, tous les deux, tous les deux. C'est presque toi, presque moi, ces amoureux dans la cour. C'est presque nous, presque vous, c'est presque l'amour. C'est presque toi, presque moi, ces amoureux dans la cour. C'est presque nous, presque vous, c'est presque l'amour. Je t'ai presque écrit ce matin, presque pris mon courage à deux mains. Te dire qu'à Lille, sur la Grand Place, j'avais ton profil de face. C'est presque toi, presque moi, ces amoureux dans la cour. C'est presque nous, presque vous, c'est presque l'amour. C'est presque toi, presque moi, ces amoureux dans la cour. C'est presque nous, presque vous, c'est presque l'amour.
Vous êtes sur IDFM, Radio Anguin, la radio du bien-être.
Vous êtes toujours sur IDFM, Radio Anguin, dans l'émission La Parole aux associations. Nous recevons cet après-midi une partie de l'équipe d'Alternative Network. Alors Tiffaine, que fait concrètement votre association ?
Alors plusieurs choses. Une des premières missions ou projets, c'est donc la cartographie. Donc l'idée, c'est sur un site internet, c'est de pouvoir, en fin de compte, lister l'ensemble des alternatives qui sont présentes sur un territoire afin que tout individu qui s'intéresse effectivement à ce sujet puisse, en fin de compte, facilement les identifier. Parce que moi, concrètement, quand j'ai commencé, j'ai mis près 4-5 mois parfois à trouver les bonnes alternatives, en fin de compte, auprès de chez moi. Parce qu'il y a beaucoup de tests. Donc là, l'idée, en fin de compte, c'est sous forme de carte collaborative, c'est que chacun puisse partager en fait, son expérience des alternatives, de pouvoir identifier celles qu'eux utilisent pour que cette base, en fin de compte, commune puisse être partagée à toute personne qui est intéressée.
Alors, vous avez fait comment pour repérer ces structures ? Est-ce que, du coup, vous avez cherché un annuaire sur Internet ? Vous êtes allé les rencontrer ? Vous allez aller discuter avec eux. Est-ce que vous avez une charte ou des critères de sélection ? Est-ce que tout le monde peut se prétendre développement durable et donc Racontez-nous.
Alors non, enfin pas tout le monde, dans le sens où actuellement vraiment on est le début. En fait, en gros, la technologie, enfin en gros, le site internet d'alternative avec la carte est prête. On travaille actuellement la catégorie, enfin les différentes catégories, parce que pareil là-dessus, il peut avoir débat en fait, voilà, où on met effectivement les choses. Donc là actuellement avec l'association, on est en train de travailler justement sur la mise en place d'une charte et d'une grille en fin de compte d'évaluation qui permettrait en fin de compte voilà de se de simplifier le classement en fait compte des alternatives et de savoir justement celles qu'on prend et celles qu'on ne prendrait pas puisque je dirais que par exemple si je prends l'exemple du manger local enfin manger localement on a je dirais surtout une histoire de personnes au-delà de je dirais
du nombre de kilomètres ou de
oui bah, alors, le nombre de kilomètres ça peut jouer bien évidemment sur l'aspect local et là de toute façon la carte on la veut véritablement sur le territoire donc on cherche pas à aller référencer ce qui se passe à Marseille ou ce qui se passe à Lyon, on est vraiment voilà centré donc sur Cergy-Pontoise principalement en tout cas pour le démarrage, mais c'est aussi voilà je dirais une carte qui peut être aussi utilisée sur d'autres territoires du Val d'Oise.
Est-ce que le local est-ce que si on est une autre ville du Val d'Oise hors communauté d'agglomération de Cergy-Pontoise, j'imagine qu'on reste dans le manger local.
Oui, tout à fait.
C'est toujours compliqué de savoir est-ce que je suis considérée comme un producteur local ou pas. Est-ce que je suis d'Argenteuil ou de Sarcelles, je peux commencer à prendre contact avec vous pour être répertorié dans votre carto?
Oui, tout à fait. Ça, c'est possible. Et après, en fin de compte, oui, la dimension, je dirais, quand je parlais d'une affaire de personnes, au-delà de la distance, en fin de compte, du lieu de production, qui est certes une chose, c'est-à-dire que, voilà, les circuits courts, quand on en parle, on est quand même sur une proximité géographique, généralement, d'un rayon de 80 km. Et puis après, le fait qu'il n'y ait qu'un seul intermédiaire, qui en tout cas en fait la définition. Mais au-delà de ça, c'est aussi une affaire de personnes, puisque il y a des... il y a des établissements, en fin de compte, ils ont beau avoir effectivement une enseigne, en tout cas porter une enseigne avec eux, ils peuvent très bien, en fin de compte, être une personne extrêmement engagée et donc, en fin de compte, mettre beaucoup de choses en place dans leur magasin qui montrent, en fin de compte, voilà, que y a des paniers bio qui peuvent être récupérés, il y a vraiment un travail sur l'approvisionnement, il y a le travail, effectivement, sur le gaspillage alimentaire, par exemple, qui peut être travaillé, versus...
Donc ça veut dire qu'un supermarché qui... s'engagerait ou qui s'engage déjà à redistribuer les invendus ou dans une démarche voilà de éco-responsable pourrait être identifié dans votre cartographie.
Alors pourrait question encore ouverte puisque là voilà c'est les choses qu'on est en train de travailler en tout cas avec les membres de l'association sur la rédaction de cette charte et donc de cette grille là, mais l'idée c'est vraiment de pas se fermer en fin de compte uniquement en disant c'est une enseigne donc elle ne peut pas être référencée. Ça dépend véritablement de l'homme qui est derrière le magasin et entre guillemets son niveau d'engagement et à quel point en fin de compte il met des choses en place, puisque voilà c'est pour sortir un peu voilà de l'idée qu'on peut se faire parfois que voilà une enseigne en règle générale ne peut pas en fin de compte être dans cette dynamique là. Je trouve que voilà aujourd'hui après il y a aussi pouvoir recenser tous les magasins je dirais qui proposent de la vente en vrac, donc ça voilà c'est mais pas seulement en fin de compte qui aussi je parle par exemple des épiceries type zéro déchet avec de la vente de rac et des produits locaux l'idée effectivement c'est de pouvoir aussi recenser ces alternatives là. Mais aussi, par exemple, les plateformes en ligne où on peut commander en fin de compte et puis recevoir le panier donc dans une localité, de pouvoir aussi les référencer. Il y a aussi tous les restaurants, par exemple. On sait que dans les restaurants, il y a vraiment énormément de diversité. On va avoir le restaurant qui va clairement pas du tout se nourrir, s'approvisionner en produits locaux, versus ceux qui font vraiment cet effort-là. Et donc là, l'objectif de la carte, c'est de les mettre en exergue, en fait, leur donner une visibilité. Lorsque les autres, effectivement, il va falloir qu'ils puissent nous démontrer qu'ils aient avancé sur un certain nombre de points avant de pouvoir effectivement être sur la carte.
D'où l'importance d'aller rencontrer quand même chaque homme derrière le projet ou la structure. Alors dans cette cartographie, on y trouve quoi pour le moment? On y trouve des restaurants, on y trouve des structures éco-responsables. Qu'est-ce qu'on peut trouver là si on y va tout de suite?
Alors si on y va tout de suite, on va commencer à trouver en fin de compte pas mal d'informations sur justement manger local, les alternatives pour ça. Donc on va avoir à la fois les marchés, on va avoir les AMAP, on va avoir les plateformes en ligne. Donc ça, c'est tout ce qui est distribution plutôt hebdomadaire. À l'inverse, on va avoir le magasin, donc plutôt ouvert effectivement régulièrement, voire presque tous les jours pour certains. Et donc là, en fin de compte, avec certaines... Ben, on va savoir si le magasin, il est à la fois coopératif, solidaire, s'il fait des produits locaux, des produits bio. Enfin voilà, on va avoir un certain nombre de labels, en fin de compte, autour de ce magasin-là pour savoir à quel point il est effectivement engagé dans ses démarches. On va aussi avoir les jardins, jardins partagés, jardins collectifs, puisque bah, pareil, en fin de compte, bah, si on veut se nourrir localement, bah, on peut aussi voilà, simplement identifier, entre guillemets, autour de chez nous, quels sont les jardins où on peut éventuellement participer, mais aussi demander à accueillir, en fin de compte, les légumes et fruits qui y sortent. Voilà, voilà.
En tout cas pour est-ce que premières... là, on est sur de tout ce qui est en lien avec, je dirais, la production et la consommation. Est-ce que sur cette cartographie, vous prévoyez aussi de repérer, je sais pas moi, les modes de transport, les, je sais pas, les lieux de covoiturage ou les lieux où sont, on peut avoir une mobilité un peu différente ou c'est pas encore à l'ordre du jour ?
Alors c'est en projet. On travaille en fait vraiment la première catégorie qu'on a décidé de travailler sur la carte, c'était le manger local. Donc là, on rajoute aussi voilà, les producteurs et puis les cueillettes. Cueillettes d'ailleurs encadrées ou cueillettes non encadrées, parce que l'idée, c'est aussi de pouvoir voilà, référencer bah, là où on peut aller chercher des fruits tout naturellement dans l'espace public, puisque voilà, c'est une information bah, qui se connaît parfois par certains individus. Bah, si on la partage et si on la rend collective, ça peut voilà, servir à tous. Mais l'idée aussi de la carte, c'est d'aller sur les autres catégories, donc de pouvoir effectivement lister toutes les alternatives pour se déplacer autrement, donc que ça soit par le vélo électrique, mais ça soit aussi par le covoiturage. Aujourd'hui, il y a de plus en plus d'alternatives qui se mettent en place dessus sur le territoire, donc de pouvoir les référencer. Et puis on a aussi en fin de compte tout ce qui est bah, partage, échanger en fait au niveau de la solidarité, en fin de compte que ça soit par exemple le réseau des sels. Du sel, en fin de compte, qui est un système d'échange local, ben voilà, montrer en fin de compte finalement où ils sont, comment en fait finalement s'y inscrire, que trouver là-bas, en fait voilà, c'est vraiment à chaque fois présenter chacune des alternatives et de faciliter entre guillemets le choix et puis l'engagement des citoyens.
Alors donc cette cartographie, elle est vraiment là pour aider le citoyen à passer à l'acte. Finalement, vous avez évoqué le côté collaboratif et participatif de cette cartographie. Aujourd'hui, si un auditeur a envie d'être répertorié dans votre cartographie, est-ce qu'il peut faire une demande en ligne ? Est-ce qu'il doit vous prendre contact directement avec vous ? Est-ce qu'il peut s'inscrire tout seul ?
Il y a la possibilité, effectivement, de rajouter des alternatives, qu'on soit justement citoyen ou qu'on soit alternative soi-même et qu'on ait envie, effectivement, d'être recensé. Maintenant, le recensement ne sera pas automatiquement. Il y a effectivement toute une modération, en fin de compte, derrière, qu'on est en train de structurer avec les membres de l'association pour faire en sorte que ça puisse petit à petit augmenter, entre guillemets, le nombre d'alternatives et pouvoir dynamiser l'usage.
Et c'est vous qui avez... créer, Tiffaine, cette cartographie, enfin le codage et le développement de cette cartographie ?
Non, pas du tout. C'est Hugo, justement, qui, étudiant en informatique, justement, en dernière année à l'ESTI, à Cergy, qui m'aide et qui, je dirais, aujourd'hui, s'occupe de tout le développement informatique et Internet, et technique, en fin de compte, de l'association.
Alors ça, c'est la partie cartographie numérique en ligne. Il y a une autre activité d'alternative qu'on a évoquée, le festival, qui s'est créé d'ailleurs avant la création de l'association, sous forme de presque de collectif. En tout cas, il n'y avait pas de capacité juridique pour ce rassemblement de personnes qui ont monté l'Écofest. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu déjà qu'est-ce que l'Écofest ? Vous avez fait une première édition, je crois que vous allez en refaire une dans l'année 2020. Alors, ça concerne qui, quoi, comment ça a pris en juin dernier, je crois.
Oui, ouais, c'est ça, voilà. Exactement. Donc non, l'Ecofest, en fait, ça a été un festival qu'on a lancé en janvier dernier avec un collectif d'associations. Et on a notamment été aidé par l'association Quelle Terre Demain, qui regroupe déjà aussi plusieurs collectifs dans le domaine de l'environnement, donc le collectif Ma Planète, mais aussi le collectif Watt Citoyen sur justement l'énergie participative. Et donc avec l'aide de cette structure et donc d'autres associations, puisqu'il y avait aussi FMR Récup Design qui est situé à Pontoise et qui fait des ateliers sur la récup et donc sensibilise effectivement enfants, écoles et collectivités sur justement la réutilisation de la matière. Donc on a lancé, je dirais, l'idée vraiment en janvier. Et puis, de fil en aiguille, on a travaillé...
Janvier 2019.
Tout à fait, ouais. Janvier 2019. Et puis, chaque mois, effectivement, on a, on devenait de plus en plus nombreux, en tout cas, sur le projet, avec l'idée, vraiment de créer, en fin de compte, le premier festival sur le thème du développement durable sur le territoire de Cergy-Pontoise, avec l'ambition véritable de faire venir les non-initiés. C'est-à-dire se dire, on veut pas faire un truc pour nous, un peu à notre sauce, avec plein de conférences hyper compliquées. On veut vraiment, en fait, montrer que passer à l'action, c'est simple, qu'on peut le faire, en fin de compte,
C'est à la portée de tous.
Tout à fait. C'est ça. Et puis, en fait, c'est aussi, on n'est pas là pour se dire, il faut arrêter de consommer, c'est dur, etc. C'est vraiment essayer de trouver un plaisir, finalement, à ça. Et c'est ce qu'on fait, en fin de compte, parce que finalement, c'est une recherche de sens. C'est essayer de revenir, en fin de compte, sur beaucoup de bon sens que nos aïeuls avaient dans leur façon, en fin de compte, de vivre, mais tout en y incorporant notre modernité, la dynamique d'aujourd'hui, et faire en sorte que, on ne revienne pas vraiment à modèle d'antan, mais qu'on essaye de faire un peu la part des choses entre les deux.
Alors, il a eu lieu où et quand ?
Alors, c'était à Cergy Préfecture, sur le parc François Mitterrand. Et c'était donc le week-end du 1er juin. Et ça s'inscrit effectivement dans la semaine du développement durable européenne. Et on a fait en fait ça sur, je dirais, un week-end, puisqu'on a commencé par une inauguration à l'Utopia, où il y avait donc justement la présentation d'un film sur une reconversion professionnelle d'une personne qui habitait à Paris et qui du jour au lendemain a décidé de devenir bergère et s'installer en Bretagne. Donc c'était de montrer.
Ça s'appelle comment ce film ?
La jeune bergère. Voilà. Et donc ça, c'était la soirée d'inauguration. Le samedi, on a lancé effectivement un festival sur plusieurs thèmes. Donc il y avait à la fois un pôle alimentation, agriculture et biodiversité. On avait aussi un pôle mobilité et énergie, donc avec certains acteurs aussi peut-être plus institutionnels, parce que c'est vrai que là-dessus, l'individu tout seul, il peut commencer à faire des choses, mais il a besoin d'être accompagné aussi par des acteurs qui bougent de plus en plus aussi sur ces sujets. On avait aussi le thème et le pôle zéro déchet, donc durabilité, récup, ça a été essayé vraiment de faire un pôle sur ce sujet. On avait aussi un marché des artisans. Donc de pouvoir montrer finalement ceux, parce qu'il y en a beaucoup quand même d'artisans qui vraiment ont une approche éco-responsable de la matière, je dirais, jusqu'à la fabrication, jusqu'à effectivement la manière dont ils packagent leurs produits. L'idée c'était de les présenter. On en avait une dizaine qui étaient présents le jour J. Et après on avait un dernier thème qui était très intéressant aussi, parce que c'est un vrai sujet, c'est l'éducation à l'écologie. Puisqu'on sent que les écoles, en tout cas pas toutes, mais certaines s'en accaparent énormément. Il y a en plus aujourd'hui de plus en plus de projets pédagogiques qui sont faits sur ces sujets.
Donc c'était quoi ? C'était des tables rondes ? C'était des projections ?
Petit format, vraiment, oui. Donc des tables rondes, il y avait des conférences, on a fait aussi des projections, il y avait un spectacle sur le thème du gaspillage alimentaire qui a été fait par... la compagnie Pile Poil, qui organise aussi le festival des Essarts une fois par an, qui est aussi un festival itinérant sur le thème éco-responsable, qui situe plus sur le Vexin. On avait aussi, pas mal de stands, pas mal d'animations.
Alors, festival, est-ce qu'il y a de la musique ou pas ? Est-ce qu'il y a eu des...
Oui, j'en ai pas encore parlé, mais bien sûr, il y avait de la musique. Il y en avait notamment le soir, on a fait effectivement un partenariat avec l'association Premier Dragon, qui travaille notamment sur un festival au moment de la fête de la musique. Et donc, en fin de compte, on a eu plusieurs groupes qui étaient présents. Donc, on a eu toute une soirée musicale. On a eu le groupe Dio qui était là. On a eu Ginny, par exemple, qui a aussi joué lors de l'EcoFest. Et on a eu 365, qui est donc un groupe de rap plutôt sympa sur Cergy. Et en dernier, on a eu un groupe plutôt d'électro. Des amis qui font quelque chose de très sympa qui s'appelle Métamorphore.
Et alors, vous avez réussi à mobiliser combien de personnes, le public, ils étaient combien sur ces deux jours à peu près?
Alors sur ces deux jours, même trois, je reviendrai sur le dimanche, mais on a estimé en fin de compte à 1500 personnes le nombre de personnes qui sont venues sur l'événement, tout en sachant qu'en plus on était le week-end de l'Ascension. Mais on a eu beaucoup beaucoup de chance parce qu'on a eu un week-end caniculaire. Donc ça, ça a été, voilà.
Ça, c'est le stress, hein, quand on organise un événement dehors.
Ça, c'est vrai. Non, complètement, parce que voilà, quelques jours même avant, il prévoyait quand même encore un peu de pluie. Puis finalement, la pluie est partie. On a vraiment eu, un beau soleil, même voire un peu trop, puisqu'on a eu des températures allant jusqu'à 35 degrés dans certains cas. Enfin, concrètement, ça a été même un peu difficile, puisque la disposition initiale du festival, concrètement, au fur et à mesure de la journée, elle bougeait, hein, parce que les gens ne pouvaient pas rester sous le cagnard. Donc, en fait, se déplacer sous les arbres. Donc, on avait un centre vide au début, puis vraiment les gens qui s'étaient mis auprès des arbres. Voilà.
Et vous vouliez reparler du dimanche ?
Oui, le dimanche, en fin de compte, on a fait vraiment un événement sur trois jours, c'est-à-dire le samedi, on a pris des inscriptions pour emmener effectivement les habitants à visiter les plaines maraîchères de Cergy-Pontoise, puisque ça, c'est vrai que c'est une vraie richesse, c'est qu'on a plusieurs exploitants, dont au moins deux qui sont effectivement exploitants en maraîchage bio. Et l'idée, c'était de faire rencontrer en fin de compte les exploitations, comprendre comment ils fonctionnaient, de pouvoir faire aussi des ateliers sur la vie du sol pour toujours sensibiliser les habitants finalement aux richesses aussi même du territoire.
Mais en termes d'organisation, ça devait être énorme. Vous étiez combien de bénévoles pour organiser cet EcoFest?
Ah, on était nombreux, on était entre 40 et 50 avec différents niveaux d'implication en fonction des personnes, mais il y avait une belle équipe.
Et alors Benoît?
Moi je voulais parler de l'ambition aussi de la future édition, puisqu'on n'avait pas de pôle habitat, donc on aimerait intégrer des acteurs qui pourraient parler de comment améliorer l'habitat, et puis surtout un pôle sur low-tech, c'est-à-dire si on pouvait devenir une vitrine à Cergy-Pontoise de ce qui existe en termes de stations autonomes, de comment je fais de la musique à base de juste mon camion, comment je peux avoir une éolienne dans mon jardin qui m'alimente en énergie. Je fais un appel s'il y a des gens qui sont calés là-dessus et qui ont déjà exposé dans d'autres festivals. Nous, on est prêts à les recevoir et comme ça, ils exposeraient leur système ingénieux et nous, on leur sert de vitrine, quoi.
Oui, vous avez envie que l'EcoFest infuse finalement dans tous les domaines que la société, qui concerne la société, qui concerne nos vies, j'imagine. Et du coup, ce deuxième EcoFest, il va avoir lieu. Vous avez déjà la date? Vous avez déjà le...
Oui, alors on a fixé la date sur le week-end du 6-7 juin prochain. Donc ça, ce serait pour la... Oui.
Même endroit?
Même endroit, ouais. Exactement. Donc, parc François Mitterrand, avec justement l'idée, sans doute de faire un format un peu proche de ce qu'on avait fait l'an dernier, mais en changeant deux, trois choses. C'est-à-dire, on commencerait par un apéro le vendredi soir. On finirait, en fin de compte, par un apéro le dimanche.
La boucle est bouclée.
Voilà, exact, c'est ça. Le samedi, ça serait effectivement la journée principale où on retrouverait l'ensemble des pôles, des acteurs, avec plusieurs formats, que ça soit de l'animation, que ça soit des spectacles, vivants, puisqu'on a eu aussi des acteurs qui sont venus faire du théâtre sur le festival. Et le dimanche, en fait, l'idée, c'est vraiment de continuer un peu comme dans la logique de la visite de la plaine maraîchère. C'est plus de multiplier, en fait, un peu les balades qu'on peut proposer sur différents thèmes, que ça soit la mobilité, que ça soit la biodiversité, que ça soit l'alimentation. Essayer, de se connecter à tout ça et de proposer, plusieurs balades le dimanche en petits groupes en fonction, effectivement, de plusieurs... avec plusieurs...
Et ouvrir à des nouveaux thèmes, comme évoquait Benoît. Et Benoît, okay. Vous évoquiez le fait que, notamment sur l'EcoFest, alors vous n'avez pas fait que ça, mais vous avez aidé à tout ce qui est logistique, notamment en termes de toilettes sèches.
La gestion des déchets, leur recyclage. Parce qu'il faut savoir qu'en festival, quand les gens vont en festival, très peu de gens pensent à trier, hein, les gens sont dans un côté festif. Et du coup, oui, ben, on est obligé de retrier toutes les poubelles, mais au final, on a eu 100% des déchets retriés par nos soins, avec des toutes petites quantités, hein, puisque même les gens qui vendaient de la nourriture avaient dans leur cahier des charges d'avoir soit des récipients biodégradables ou nous-mêmes nous fournissions de la vaisselle en dur. Il y avait un stand vaisselle où chacun relavait son assiette. Donc, on apprend aux gens à ne pas créer de déchets, quoi.
Et vous êtes formé à cette méthode de monter un événement éco-responsable? Est-ce qu'il y a une formation? Est-ce que on est en autodidacte? Comment on monte un
toit? Non, c'est de l'expérience. C'est à force de vagabonder dans la France, et puis en allant justement des petits festivals comme ça qui sont pas forcément écolos, mais les gens s'impliquent. Et oui, l'histoire de la vaisselle partagée, j'avais vu que ça marchait déjà ailleurs, des belles décos, on peut s'inspirer aussi de tout ça en regardant ce que font les autres.
Alors, c'est un festival qui est payant?
Non, pas du tout, gratuit. Justement, l'ambition vraiment, c'est d'ouvrir, enfin de faire en sorte que voilà, tout individu puisse y aller, qu'il n'y ait pas de droit d'entrée, quoi.
Alors, qu'en a pensé le public ou les partenaires associés à ce projet-là?
Ah non, le retour très très positif, hein, là-dessus, enfin ça a vraiment...
Parce que votre objectif, plaisir. C'était aussi de toucher des non-initiés, alors un non-initié qui arrive à l'Ecofest.
Mais on en a eu, alors voilà, difficile à quantifier, mais on sait que voilà, il y a des personnes, étant donné qu'on était sur le parc François Mitterrand, ça a facilité effectivement l'arrivée de personnes qui voilà, découvraient vraiment ce qui se passait, et donc voilà, pour certains, bah, ça a permis en tout cas de démarrer sans doute peut-être une approche, en tout cas au moins une curiosité. Et puis en termes de classe d'âge, on a vraiment eu tous les âges, c'est-à-dire on n'était pas sur un type de public on n'était pas sur un public plus famille. On a eu voilà des jeunes, des moins jeunes, des étudiants,
J'imagine un gros travail de communication.
Oui.
Aussi.
Complètement, et donc là, fait superbement bien, en tout cas, notamment via les réseaux sociaux. Et donc voilà, Flavia, qui fait partie du collectif Ma Planète, voilà, est vraiment extrêmement douée sur ce sujet et nous a voilà, guidés, puisqu'on a une page aujourd'hui à Facebook qui voilà, a été fortement suivie.
Un festival qui est porté par Alternative, mais qui est un peu multi-partenaire, multi-associatif.
Complètement.
Vous avez évoqué 50 bénévoles, c'est quand même pas rien. En même temps, l'ambition que vous avez pour le festival était énorme. Ça a bien fonctionné. J'imagine qu'il va encore se développer, donc avoir besoin de plus en plus de bénévoles avec des expertises complémentaires, à la fois logistique, technique et puis comme marketing. Le marketing, j'imagine, vous aide aussi à servir le projet associatif. Merci beaucoup pour toutes ces informations et cette présentation riche. Je vous propose de poursuivre notre conversation juste après avoir écouté Georgia Smith, Be Honest, sur IDFM Radio Anguin. À tout de suite.
I know you want me. Every day not only when you're lonely, yeah. You see, you think you know me, but you don't even know nothing about me, yeah. You see my thick thighs, lost when you look into my brown eyes. You see my little ways can make you switch sides. You never know the devil in a disguise. So why don't you stand up, baby, and
tell me, do you want me on top? So let me show you I don't need to back it up. Before you come my way, make sure you think twice. Look into my eyes, but I can never see eyes. I can point a gun, but you know I could never lie. Come through, I can show you something you can run to. When I'm finished, you'll be feeling brand new. We'll never be somebody you can run through. And I can put that in my life one time. No cap, big five, slow that, catch feels, get high. If you make it bad, then you can lie. Just please don't waste my time. Be honest, you want this.
majesty. About the way your body twisting, make me lose control in a distinct boy. And it's happy cause I'm thinking of us. Don't go throw me under the bus. Under respect, I'm under your love. I don't know why nobody want me. They say my baby no day do me bad. Put your heart inside my goodie bag. If I do you bad, I beg you make you no do me bad. Give me one time, one try, be mine this time. Take time, same time, make we no day waste time. Girl, I never lied, you already know I be honest.
Vous êtes toujours dans l'émission La Parole aux associations avec Tiffaine et Benoît d'Alternative Network. Alors, on a vu en deuxième partie d'émission qu'Alternative, c'était une cartographie en ligne qui répertorie toutes les bonnes initiatives et les projets éco-responsables. On a vu, vous nous avez parlé aussi de votre premier festival EcoFest, qui est un festival qui valorise et qui va dans le sens du développement durable. Et je crois que vous faites aussi d'autres choses à Alternative, notamment vous intervenez bientôt un peu sous forme d'atelier et aussi de plaidoyer pour continuer à infuser auprès des citoyens et de porter votre engagement.
Oui, non, tout à fait. Donc, j'interviens au rendez-vous des initiatives responsables, là où on s'est justement un peu rencontrés il y a un an au début un peu de ce projet, où j'interviens en fin de compte sur un atelier design thinking le matin pour justement en fait penser l'événement low-tech du demain. Enfin voilà, concrètement, l'idée c'est voilà travailler en fait avec les participants sur voilà, moi j'ai quelques pistes grâce à l'EcoFest, mais l'EcoFest, on a commencé à avoir quelques approches. Maintenant, il y a encore beaucoup de choses à faire. Hein. Enfin, on peut s'améliorer. Donc, l'idée, c'est chaque année, déjà dans l'EcoFest, nous, de continuer à gagner en expérience et puis surtout de la faire partager aux uns et aux autres et essayer de trouver voilà, des moyens de mutualiser les choses, les ressources, par exemple les EcoCup. Est-ce que chacun, chaque acteur doit avoir des EcoCup ou est-ce qu'on mutualise, entre guillemets, un set d'EcoCup qu'on rend après disponible en fonction des acteurs? Voilà, ça fait partie des questions qui pourront être évoquées ce jour-ci.
Oui, parce qu'on n'est pas juste sur comment on consomme mieux et responsable. Lorsqu'on s'intéresse à la chose du développement durable, c'est aussi, ça nous interroge aussi sur notre façon de travailler, de collaborer ensemble. Finalement, vous avez évoqué la question de la mutualisation. Après, on peut affiner avec
les outils,
collaboration, coopération, jusqu'où on va. Mais oui.
Oui, non, et après, c'est vrai qu'il y a la question même des outils, c'est-à-dire que quand on travaille en collectif, etc., quel outil on utilise? Est-ce qu'on utilise justement des outils plutôt en open source ou pas? Enfin voilà, là, actuellement, il y a tout un travail, en fin de compte, au sein de l'association, déjà pour partager les expériences des uns et des autres et choisir, en fin de compte, les outils qu'on va vouloir justement utiliser. Formation qui est d'ailleurs aussi ouverte et qui sera, en tout cas, faite à la boîte. Voilà.
Alors, je crois que vous avez encore plein d'autres ambitions pour Alternative. Vous aviez évoqué en préparant l'émission la question de distribution de paniers de légumes bio, de marchés éphémères. Et puis je sais aussi que vous êtes de plus en plus inspiré par le modèle des ressourceries.
Oui, non, tout à fait. Donc sur la distribution locale, l'idée effectivement c'est vraiment d'essayer d'encourager, de favoriser, de développer tous les points, enfin voilà, les distributions locales, mais plutôt type éphémère, en fait, sur un temps limité. Donc, il y a les modèles, effectivement, tels que la ruche qui dit oui, où vous commandez en ligne et vous venez récupérer, en fin de compte, une fois par semaine, vos produits. Mais là, je suis en train d'essayer de mettre en place, en fin de compte, un autre type de marché, qui est donc effectivement un marché éphémère, avec l'enseigne, justement, du web à l'assiette. L'idée, c'est de mutualiser, en fin de compte, à la fois un marché digital, donc on commande en ligne, on vient récupérer sur place, mais on plus, en fin de compte, on a la possibilité de commander sur place. Et là, en fin de compte, ça s'apparente à un marché de 16h à 20h, plutôt en nocturne, avec justement cette double carte, en tout cas, ou entrée. La possibilité soit de se dire, bah non, moi, je suis plutôt quelqu'un qui va vouloir commander en ligne, prévoir mes repas à l'amont, etc., un peu comme le drive peut l'autoriser aujourd'hui. Bah, je peux faire ça et je peux récupérer sur mon trajet, finalement, ma commande. Ou, bah tiens, voilà, moi, non, finalement, je n'ai pas trop envie, voilà, de faire ma commande en ligne. Par contre, j'ai besoin de voir les produits, j'ai besoin de voir les producteurs, j'ai besoin d'échanger avec eux. Ben là, finalement, ça se transforme un peu en marché. Donc ça, c'est le genre de choses qu'on essaye voilà, de mettre en place aussi avec l'association alternative. Donc aujourd'hui, on a la ruche qui dit oui de Vauréal qui est gérée par l'association et on cherche à mettre en place une distribution locale avec un marché éphémère sur Cergy Préfecture puisque clairement, aujourd'hui, il n'y a pas d'offre ou en tout cas, l'offre est extrêmement limitée en ce qui concerne les produits locaux et bio sur ce lieu.
Et justement, dans la même lignée, la même démarche éco-responsable, cette question des ressourceries, est-ce que Benoît, vous pouvez nous dire d'abord ce que c'est qu'une ressourcerie ?
Oui, alors la ressourcerie, on va dire que ce n'est pas uniquement je récupère un objet qui ne sert plus et j'essaye de le revendre, mais il y a aussi le côté réparation ou contourner l'utilité première d'un objet, c'est-à-dire une table peut devenir une étagère, un fauteuil, donc il y a tout le, peut-être aussi intégrer le côté artistique et contourner l'utilité première de l'objet.
Ce qui distingue la ressourcerie d'une brocante. Par
oui,
exemple,
de ce que peut faire, ce que peuvent faire d'autres associations qui récupèrent tous les objets du particulier, qui revendent, mais qui ne, dès que c'est un petit peu abîmé, s'empressent de remettre tout de suite à la benne. La ressourcerie, oui, ça apporte un plus sur le côté détourner et réparer.
D'accord. Et ça, c'est alternatif, c'est quelque chose qui vous inspire, que vous aimeriez mettre en place ou vous associer. Je sais pas, via votre cartographie ou peut-être à l'Ecofest un jour, d'avoir une recyclerie éphémère.
Bah on avait une gratiféria, donc en tout cas au moment de l'Ecofest, qui permettait voilà aux individus d'apporter effectivement des objets dont ils n'avaient plus l'usage et puis potentiellement de récupérer tout simplement quelques objets qui pouvaient leur plaire sur place.
Donc une gratiféria, c'est gratuit, c'est ça ?
Oui, tout à fait.
Et on vient prendre... ce qui nous intéresse et éventuellement, sans forcément systématiser l'échange, on peut aussi venir déposer...
Oui, tout à fait.
D'ailleurs, c'était marrant parce que le jour J où on a commencé à exposer les objets que les festivaliers ramenaient, les gens voulaient se servir et disaient « Mais c'est combien je donne ?» Je fais « Non, mais c'est gratuit, servez-vous. Tout ce qui est là doit disparaître, prenez tout ce que vous voulez. Mmh. » Et les gens ne sont pas forcément habitués à ce que sur 10 mètres de long, il y a des objets gratuits. Quoi.
Ouais. Et à l'inverse, moi, pour en avoir animé, organisé quelques-unes, le système d'échange aussi, c'est quelque chose à réguler. Parce qu'il y a aussi le « Je viens déposer tous mes objets justement sous couvert que je ne jette pas et que c'est bien, je viens déposer un petit peu tout ce que j'ai entre chez moi qui fonctionne plus du tout, qui ne peut pas du tout être récupéré. Et en même temps, il faut gérer ce stock-là, quoi.
Oui, mais de toute façon, c'est vrai qu'il y avait un moment, en fin de compte, où on réceptionnait les objets, et puis après, il y avait un moment où on triait, voilà, pour départager finalement ce qui allait. Donc, il y a eu un besoin, effectivement, de faire du tri avant de pouvoir proposer, effectivement, les objets.
Et il y a des ressourceries déjà sur le Val-d'Oise ?
Oui, il y en a une à Villiers-le-Bel. Justement, qui vraiment vous permet de déposer les objets dont vous n'avez plus besoin et puis surtout voilà, de pouvoir en fin de compte trouver des objets dont vous avez besoin sans forcément voilà, passer par les canaux classiques de distribution ou en ligne, mais de pouvoir tout simplement vous équiper via une ressourcerie, c'est tout à fait faisable.
Et vous aviez envie d'évoquer avec nous aujourd'hui ce modèle des ressourceries. Est-ce que c'est parce que vous avez un projet particulier avec ce modèle de ressourcerie ?
Non, mais après, je pense...
Vous aviez envie de mettre en lumière ce mode de consommation et d'échange ?
Oui, c'était mettre en évidence effectivement cette alternative, en fin de compte, qui n'est pas toujours connue. Enfin, les gens connaissent... Enfin, certains acteurs, en fin de compte, du recyclage ou de la récupération. Mais les ressourceries, voilà, c'est un modèle un peu plus spécifique. Je dirais la ressourcerie, c'est une structure qui doit collecter des objets sans les sélectionner, les revaloriser, les redistribuer et mener des actions de sensibilisation à l'environnement. Donc en tout cas, voilà, aujourd'hui, ça c'est la mission en tout cas des ressourceries. Donc il y en a une dans le Val d'Oise, il y en a trois dans les Yvelines. Donc après, voilà, je pense qu'il y a vraiment potentiellement peut-être un potentiel pour un jour, voilà.
Mais on voit qu'il y a ce type d'initiative encore un peu timide. On voit les boîtes à livres, on voit dans certaines entreprises, ou même à la mairie de Cergy, il y a une armoire où on peut venir déposer des objets et se servir librement.
Alors en fait, oui, quand on fait un peu le tour des encombrants et des poubelles, on se rend compte qu'il y a beaucoup, beaucoup trop d'objets qui sont jetés par rapport à ce que l'être humain peut réutiliser. Alors, soit on sensibilise les gens à se dire, ben, il y a tout ça, ça part à la poubelle. Donc, est-ce que vous passez en système aux occasions? Mais par rapport à tout ce qu'on voit comme objet, oui, il y a un manque de structure. C'est-à-dire que il y a une déchetterie des Linandes à Cergy qui a ouvert un espace réemploi. C'est-à-dire, au lieu de mettre dans la benne qui va être détruit, on met dans un local, après c'est récupéré par deux associations, Emmaüs et le Maillon, mais eux-mêmes ne peuvent pas, vu la quantité des objets qui sont bons, ils ne peuvent pas prendre tous les vélos, toutes les tondeuses, tous les objets pour les revendre, ils n'ont plus de place pour revendre tout ça. Donc il y a un manque de structure pour écouler tout ce volume.
Oui, et puis encore cette histoire de logistique aussi. Hein. Il faut pouvoir stocker, il faut pouvoir réparer. C'est vrai que parfois on jette parce qu'on, dans notre entourage proche, personne n'en veut, et que nous-mêmes, dans nos petits appartements, on peut pas toujours réparer, ou on sait pas réparer. Je crois que c'est un peu aussi les repair cafés qui voient le jour.
C'est pour ça qu'on répertorie ici. On répertorie aussi avec la carte tous les endroits où on peut réparer, dont les repair cafés. Je suis adhérent de Suite Voreal d'ailleurs, et dès que je suis un petit peu bloqué, oui, il y a 2-3 bénévoles qui vont me trouver la pièce que j'avais pas, même si j'ai beaucoup de stock. Il manque toujours des pièces de vélo, de machine à laver ou de micro-ondes, et ils ont le savoir-faire et ce qu'il faut pour réparer.
Et en plus de pas être dans la surconsommation, on rencontre des gens sympas, j'imagine.
Oui, non, très. Et c'est vrai que c'est ça qui est sympa, et oui. Tout à fait.
Merci beaucoup à tous les deux, Tiffaine Couder et Benoît Letellier, de nous avoir présenté votre association avec autant d'engagement et de motivation, d'avoir rappelé que chacun d'entre nous peut avoir une influence sur l'environnement et mettre ses actes en conformité avec sa prise de conscience. Rappelons aussi que le développement durable, c'est la préservation de la Terre, mais c'est... il concerne aussi l'économie, la sphère sociale ou encore la participation politique, vaste préoccupation et grande urgence, donc, qui nous pousse à réfléchir ensemble, à coopérer, à innover pour trouver des solutions durables et respectueuses. On arrive à la fin de cette émission, mais avant de se quitter, comment peut-on vous contacter?
Alors, le plus simple, effectivement, c'est via notre site Facebook. Donc, on a une page alternative.
Alors, sans eux?
Sans eux, exact. Et donc, vous pouvez nous contacter à l'adresse mail, sinon, effectivement, à contact@alternative-sans-eux.network.
Et la cartographie, on la retrouve en ligne. J'imagine que si on tape Alternative Network Cergy, on retombe sur votre cartographie pour voir un petit peu à quoi elle ressemble.
Oui,
j'ai été ravie de partager cette heure avec vous et souhaite une belle continuation à Alternative Network. Je remercie également Philippe à la technique. Je vous rappelle que si vous souhaitez participer à la parole aux associations, il vous suffit de nous contacter à l'adresse mail suivante contact@csa95.com. C'était Audrey Lamolly sur IDFM Radio Anguin. Je vous donne rendez-vous vendredi 22 novembre à 14h. On parlera réalisation, court-métrage et quartier populaire avec l'association Rêve Encore. Bonne fin de semaine à tous.
Hello, c'est Terry. On se retrouve exceptionnellement ce samedi à 21h pour la deuxième partie de l'émission consacrée à Cassav dans IDFM Caraïbes sur Radio Anguin, la radio du bien-être.
Musique, bon plan, invité et surprise. La seule émission pour les enfants, c'est ici et nulle part ailleurs.
Salut, c'est Oui Oui, j'écoute Casse-Noisette avec Christophe.
Jerry nous a trouvé une super super mission pour nous les Spies. Clover, Alex et moi, on est sur Casse-Noisette.
Le samedi de 7h à 9h, Casse-Noisette, c'est l'émission de la famille sur Radio Anguin, la radio du bien-être.
Avec Christophe.
Big Bang, c'est un thème et des chroniqueurs, sorties, ciné, beauté, high-tech et news. Retrouvez-nous tous les samedis à 20h.
À quoi peut ressembler le visage d'une momie après 3000 ans? Pour se faire une idée, je vous invite à taper Bernadette Chirac sur Google Images. J'espère que la momie m'en voudra pas pour la comparaison.
Big Bang, c'est tous les samedis depuis 1997 sur les 98 FM ou sur l'appli ou le site Big Bang.
Bonjour, c'est Mehdi. Je vous donne rendez-vous chaque dimanche matin entre 9h30 et 10h30 pour votre émission de dédicace.
Petit, tu verras si tu crois en toi, petit à petit.
Ne manquez pas ce nouveau rendez-vous musical tous les dimanches matin entre 9h30 et 10h30 sur IDFM Radio Anguin, la radio du bien-être.
L'accordéon très présent sur IDFM Radio Anguin. Retrouvez du lundi au vendredi entre 11h et 12h IDFM Accordéon. Magazine, danse, convivialité, jeunesse, reportage. Toutes les facettes de l'accordéon présentent.